Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
Là-haut sur la colline.
C'est l'heure de la chronique consti avec notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon, accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour Patrick.
Bonjour Antoine.
On est en deuil, Patrick, parce que Benoît Pelletier est mort. Benoît Pelletier, grand constitutionnaliste, ancien ministre de Jean Charest des Affaires intergouvernementales. Alors, pourquoi, selon toi, c'est une figure importante là, du dernier quart de siècle là, au Québec?
Je pense qu'il faut voir il faut comprendre les circonstances dans lesquelles il s'engage en politique pour comprendre à quel point, en tout cas, il a incarné pendant un bon moment l'image du dernier fédéraliste réformateur.
Ben
bon,
oui.
C'est un peu exagéré, mais c'est l'impression qu'il pouvait donner. C'est-à-dire que dans des circonstances post-référendaires, donc résultats très, très, très serrés, au référendum de 95, le oui qui perd par quelques dizaines de milliers de votes, il y a une certaine polarisation il n'y a pas beaucoup d'espace politique entre l'adhésion à l'indépendance et l'adhésion sans réserve à l'unité canadienne puis au Canada tel qu'il est. L'approche qu'on qualifie parfois, non pas de fédéralisme, mais de canadianiste.
Oui.
Le point où on est tellement partisan de l'unité canadienne qu'on est prêt à acheter le Canada tel qu'il est, malgré tous ses dysfonctionnements qui l'éloignent du véritable fédéralisme. Mm-hmm. Et donc, c'est dans cette espèce d'espace polarisé que Benoît Pelletier s'engage en politique en essayant d'incarner la figure du fédéralisme réformateur, de représenter un peu un phare à l'intérieur du Parti libéral. Mm-hmm. J'aurais presque une conscience constitutionnelle.
Oui, au début des années 2000, hein,
oui.
Il s'engage.
Oui,
et cette tradition-là était très importante au Parti libéral jadis.
C'est
la tradition de Le Sage, Bourassa, Ryan. C'est tous des gens qui disaient il faut miser sur le fédéralisme renouvelé et non sur le nationalisme et l'indépendance.
C'était toute l'histoire du Parti libéral du Québec jusqu'au rapport à l'air. Et c'est ça aussi. C'est Benoît Pelletier préside un comité de réflexion pour définir la position constitutionnelle du Parti libéral à un moment de l'histoire qui est l'après-référendum. Et le dernier exercice du genre a conduit à le déchirement, une scission à l'intérieur du parti. Mario Dumont, les jeunes libéraux qui claquent la porte, Jean Allaire. Et donc, dans le Parti libéral, il y a beaucoup de gens pour dire, envoyer un signal qui existait, qui était moins présent dans le passé au Parti libéral, qui est ces questions-là, on ne veut plus en parler. Le tabou constitutionnel, l'idée que parler des questions qui préoccupent Benoît Pelletier, c'est faire le jeu des indépendantistes, c'est un discours qu'on entend dans ces années-là, qu'on entend parfois encore aujourd'hui au Parti libéral. Donc, dans ce contexte-là, puis Benoît Pelletier va souvent s'ouvrir en privé là-dessus. Il va souvent nous confier que c'était quand même tout un travail que de convaincre certains militants de travailler ce réflexe de résistance, ce réflexe en fait pro-statu quo qui s'établissait là de plus en plus dans le parti.
Et oui, puis lui, il se faisait traiter de péquiste, je me souviens, par certains libéraux canadianistes.
Ouais.
Je veux plus dire fédéraliste,
ouais.
Surtout pas cette semaine avec Justin Trudeau qui semble être à la tête de penser qu'il est à la tête d'un pays unitaire, mais on en a parlé la semaine passée.
Ben oui, c'est difficile pour Benoît Pelletier de justement d'être l'ennemi du statu quo et de la centralisation et donc de la vision libérale fédérale du Canada, tout en étant ce que je crois qu'il a été, un authentique libéral provincial, libéral québécois du moins. Et là, il faut comprendre, tout est dans la nuance. Là. Stéphane Dion, c'est un fier Québécois, puis c'est un fier Canadien. On va pas y enlever ça. Benoît Pelletier aussi. Mais il y a une différence entre les deux. C'est que les deux ont une identité multiple, fier libéral, fier Québécois, fier Canadien. Mais la différence avec Benoît Pelletier, c'est qu'il y avait une loyauté première à l'endroit des intérêts du Québec. Donc, il suffit pas juste d'être fier Québécois et fier Canadien. La recette Benoît Pelletier, c'est aussi d'établir, je dirais, non pas une hiérarchie entre ces deux identités-là, mais d'établir qu'il y a une loyauté première, et je dirais même absolue, à la défense des intérêts du Québec dans cette appartenance canadienne. Et la force de son positionnement, qui à mon avis au tournant des années 90-2000 est un écartèlement un peu impossible à tenir là, dans cet environnement intellectuel polarisé, politique polarisé, mais la force de son positionnement, c'est que en vérité, à ce jour encore, j'espère encore pour un bon moment, parce que je crains le moment où ce ne sera plus le cas, la position de Benoît Pelletier, c'était quand même celle d'une majorité de Québécois. Certes, nombreux sont les Québécois à tirer les conséquences de l'échec du fédéralisme renouvelé, puis à être prêts à aller vers l'indépendance, la souveraineté, mais d'ailleurs la souveraineté souvent avec une redéfinition des relations avec le Canada. Et donc, si on regarde ce que les Québécois veulent en plus grand nombre, du moins de la révolution tranquille à aujourd'hui, c'est quand même l'idéal proposé par Benoît Pelletier qui a toujours été l'idéal le plus populaire. En même temps, l'immense faiblesse de sa position, c'est que ça passe pas le test de la réalité. C'est qu'on parle d'un Canada qui n'existe pas, on parle d'un immense décalage entre un rêve et la dynamique profonde de ce Canada contemporain dans lequel on vit. Et tous les jours, puis l'actualité de toute la semaine, avec des annonces quotidiennes du gouvernement Trudeau, où on voit que la dynamique profonde, c'est de faire fi de l'esprit et de la lettre du partage des compétences, mais on voit qu'il y a une dynamique qui correspond pas à cet idéal proposé par Benoît Pelletier. Après, malgré cela, il y a ce que moi j'aimais chez Benoît Pelletier, c'est qu'au moins dans la discussion, son idéal était légitime, mais il était au moins conscient de ce décalage entre son idéal et la réalité, et donc il se mettait jamais la tête dans le sable, il était capable de nommer les problèmes du fédéralisme canadien, il était capable d'être critique, et on était capable de faire des constats honnêtes, intègres intellectuellement sur les vrais problèmes du fédéralisme canadien, et ça, je pense que ça compensait un peu pour la part idéaliste, jovialiste, irréaliste de son projet. Encore là...
Comme ministre, tu te souviens de sa fameuse déclaration. Il avait dit « Le fruit n'est pas mûr pour des négociations constitutionnelles. » Il revenait toujours sur « Le fruit n'est pas mûr. »
Écoutez, là, le fruit n'est pas mûr, c'est que je voudrais bien qu'il y en ait. Et je vais essayer de le faire mûrir. Et puis, bon, on se souvient, est-ce que le fruit est irradié? Ce matin, dans les pages de voir, Michel David soulignait, puis c'est vrai que c'est peut-être un volet de son passage en politique, là. Peut-être ce que moi j'appellerais la phase un peu jovialiste de son action politique, c'est-à-dire le moment où, au bénéfice de l'alternance entre les libéraux fédéraux et les conservateurs de Stephen Harper, il se prend à croire que les lignes bougent et que les tendances de fond du régime canadien viennent de changer. Et effectivement, c'est une période où il réussit à concrétiser peut-être ce qui est le plus important là, dans son legs politique. Benoît Pelletier, dans ces années-là, participe à des négociations pour atténuer le déséquilibre fiscal, le strapontin ou le siège à l'UNESCO, la reconnaissance du Québec par la Chambre des communes dans une résolution déclaratoire. Ça produit pas beaucoup d'effets.
Et il a beaucoup travaillé pour aider Stephen Harper à circonscrire le fameux pouvoir fédéral de dépenser. Stephen Harper échouera, entre autres, parce que la machine et l'Ontario ne voulaient pas. Mais moi, je me souviens très bien que cette idée-là, d'une charte, avait parlé d'une charte du fédéralisme d'ouverture pour encadrer le pouvoir fédéral de dépenser, pour empêcher précisément ce qui est en train de se passer avec Justin Trudeau actuellement, c'est-à-dire un chef qui, voulant se faire réélire, dit « je vais régler tous les problèmes en aspergeant de milliards, peu importe les compétences, partout au Canada ».
Il y avait une belle relation. Je pense qu'il avait l'écoute de Jean Charest. Je pense qu'il y avait une réelle complicité. Et lorsqu'il quitte, je crois que c'est 2007, peut-être Ouais.
2008.
Ben, les années
2008, en fait. 2008, il ne se représente pas en 2008.
Il ne se représente pas. Il quitte à la fois le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ben, les années qui suivent pour le gouvernement Charest sont des années peut-être moins glorieuses sur le plan des relations avec le fédéral. Les aspects vraiment, plus positifs du bilan de Jean Charest, elles sont dans les années où Benoît Pelletier est à ses côtés. Mmh. Est-ce que... Puis ça, c'est un regret. Là. Moi, je cherchais l'occasion un jour de trouver le moment pour demander à Benoît c'est quoi les multiples raisons qui l'ont amené à faire ce choix de quitter, au fond, le gouvernement et l'Assemblée. Il y a sûrement des raisons personnelles, mais quelle lecture politique qu'il faisait à ce moment-là. Chose certaine, il y a eu un refroidissement des relations avec le fédéral, avec le gouvernement Harper.
Moi, je pense vraiment que c'est l'idée de prendre le règlement du déséquilibre fiscal et de le donner en baisse d'impôts, ce choix électoral de Jean Charest en 2007, ce qui fait que là, ça s'est tellement refroidi avec Ottawa, il n'y a plus moyen de rien faire avancer pour le Québec après ça.
Et même une fois qu'il quitte la politique, ben Benoît Pelletier, au fond, toute sa vie, c'est un pied dans l'université puis un pied dans l'action. Et donc, le Benoît Pelletier des dernières années, qui a réussi son retour à la vie universitaire, ce qui n'est pas toujours simple, évidemment, une permanence et tout ça, mais de vraiment revenir dans la recherche puis de laisser une marque, c'est pas donné à tous. Il l'avait remarquablement bien réussi, ce virage. C'est sûr qu'avec son départ... nombreux sont ceux qui voudront peut-être tirer la couverte de son héritage là de leur côté.
C'est au bénéfice de la CAQ ou du Parti libéral du Québec.
C'est la question qui m'habite cette semaine. Je me dis parce que d'une certaine manière, l'espace très restreint qu'il occupait entre l'indépendance et le statu quo dans les années 2000, on peut dire que l'élection de la CAQ a en quelque sorte créer un espace plus vaste sur le plan politique pour, disons, l'autonomie sans l'indépendance, ce qui semble correspondre à son profil. Mais en même temps, je crois que la famille libérale, c'était sa véritable famille, qu'il aimait avec ses qualités, ses défauts, avec ce lourd travail d'essayer de garder le Parti libéral dans la bonne voie, dans la voie de la loyauté à l'endroit des intérêts du Québec. Et je pense que dans son rapport avec le parti, et du moins en tout cas avec son chef Jean Charest, ça a souvent été des désaccords d'opportunité plutôt que des désaccords de fond. C'est-à-dire que sur plein de sujets, je crois que M. Charest était d'accord avec toutes les suggestions que lui faisait Benoît Pelletier, mais le stratège politique... évaluait les risques, les coûts-bénéfices, voulait pas faire le jeu des indépendantistes. Et donc, Jean Charest finissait par dire à Benoît Pelletier, c'est pas le moment de faire l'idée que tu me proposes. Le fruit n'était pas mûr.
Le fruit n'était pas mûr.
Et donc, je prends un exemple.
Mais pour l'international, pour la bataille que Benoît Pelletier a menée pour les compétences, l'extension des compétences internes du Québec à l'extérieur, ça, Jean Charest l'a toujours beaucoup appuyé.
Jean Charest a étiré la doctrine Jérémy Lajoie pour dire que ce qui est de compétences chez nous est de compétences partout. Moi, j'ai entendu au moins à deux reprises Jean Charest dans des colloques universitaires dire qu'il est pour une constitution du Québec comme le propose Benoît Pelletier, mais il n'a pas vu le moment, il ne voit pas encore l'horizon.
Le fruit n'était pas mûr.
Exactement, même pour une démarche que l'on fait par nous-mêmes sans demander la permission au reste du Canada. Donc, il y a cette ambiguïté-là dans sa relation, je pense, avec sa famille politique, Benoît Pelletier, mais à la différence de ce que j'appelle parfois le post-souverainisme de la CAQ, c'est-à-dire un rapport à l'appartenance du Canada qui est un peu une appartenance résignée, une appartenance sans enthousiasme, une appartenance par défaut. Je pense qu'il y a chez Benoît Pelletier une vraie volonté de bâtir des relations, d'amitié et de coopération avec le reste du Canada.
Oui, le Conseil de la Fédération.
C'est son grand héritage, notamment avec les francophones hors Québec.
Ah aussi,
Cette espèce d'enthousiasme pour les relations intergouvernementales, je pense qu'il vivait mieux dans la famille libérale que dans ce qui est pour le moment l'objet politique difficilement identifié qui est la coalition Avenir Québec. Il n'empêche que Benoît Pelletier nous a démontré, notamment après avoir quitté la vie politique, sa capacité à s'élever au-dessus des intérêts partisans, au nom de sa loyauté première à l'endroit des intérêts du Québec. Il a appuyé la loi 96, appuyé la loi 21, l'utilisation du pouvoir de dérogation. Il faut lire et relire le texte qu'il a écrit en 2021 sur les rapports entre fédéralisme, pouvoir judiciaire et droits fondamentaux. C'est vraiment un legs très important, ce texte. Il dénonçait encore récemment dans les pages du journal de Montréal et de Québec l'initiative du siècle, la perte de poids politique du Québec dans le Canada, pouvoir de fédéral de dépenser, on en a parlé.
Il était venu à la haut sur la colline pour défendre l'idée qui avait été proposée notamment par le Parti québécois d'une réflexion autour de l'avenir politique du Québec. Il trouvait que c'était une bonne idée qu'on
en
était rendu là.
Personnel, il y avait chez Benoît Pelletier...
Est-ce qu'il t'a convaincu de certaines choses? Ou?
Ben c'est drôle parce que, au fond, moi, le premier papier que j'ai... Ça a été un peu un mentor, dans le sens où le premier article que j'ai publié dans la vie, ou un des premiers, se retrouve à faire l'objet d'un reportage dans les pages du Devoir. Un jeune reporter à l'époque s'intéresse aux questions constitutionnelles et ce jeune reporter qui maintenant anime là-haut sur la colline, le hasard des choses, il fait du suivi du reportage auprès du ministre. Le ministre est donc obligé de répondre à aux enjeux qui sont soulevés par le papier. Et comme il l'a fait avec beaucoup de jeunes dans la relève, etc., il m'invite à son bureau, on a des échanges et c'est drôle parce qu'à cette époque-là de ma vie, j'étais dans la phase, et j'y crois toujours, que la procédure constitutionnelle le Canada est tellement bloqué qu'il n'y a rien à faire. Mais je dois avouer qu'au contact de Benoît Pelletier, puis au détour du reste de la vie, bien, je me suis quand même pris au jeu de ce qu'il nous proposait déjà dans son rapport qui porte son nom, dans le rapport Pelletier. C'est-à-dire, c'est pas parce que la voie constitutionnelle est bloquée qu'il n'y a pas des petits pas à faire en attendant. En attendant que je sais pas quoi, mais en attendant. Et à cet égard, moi, je me suis trouvé à avoir une communauté d'esprit grandissante avec Benoît Pelletier. D'abord, autour de l'idée du combat contre le statu quo constitutionnel au Canada, autour d'une lecture lucide et honnête des dysfonctionnements du fédéralisme. Et à ce jeu du... C'est pas facile, tout est piégé, mais le Québec pourrait, sur le plan des petits pas, en faire plus. Ben, y a tellement de choses qu'on pourrait faire et qu'on pourrait mieux faire que je pense que c'était un terrain sur lequel on se retrouvait facilement. Je te lisais encore ce matin. Elle est où notre constitution que l'on peut adopter sans le reste du Canada? Elle est où notre loi équivalente à la loi de l'Alberta? Ils sont où les contestations judiciaires des initiatives fédérales?
Est-ce que Simon Jolin Barrette pourrait être ou pourrait s'avérer un héritier de la pensée de Benoît Pelletier?
C'est intéressant parce que Benoît Pelletier, au fédéral, c'est pas un libéral fédéral. Il y a plus une communauté d'esprit avec la famille conservatrice. Et donc, à cet égard, dans la coalition Avenir Québec, il pourrait être proche de certains ex-conservateurs, comme le ministre des Finances, par exemple. Mais clairement, là où il a pris des positions en faveur des initiatives du gouvernement Legault, ça a toujours été sur le terrain là des dossiers de l'actuel ministre de la Justice, la langue, modifier le texte de la Constitution de 1867. J'ignore la nature des rapports qu'il pouvait avoir en privé, ou si c'était tout simplement une communauté d'esprit sur le fond, mais oui, il semble y avoir... bref, Benoît Pelletier a été un genre d'orphelin politique qui semblait un peu... qui avait des allures du dernier fédéraliste réformateur au sein des libéraux des années 2000. Mais même à la CAQ, on peut pas dire que c'est exactement non plus qu'il est le père spirituel de la doctrine constitutionnelle de la CAQ. Il a une influence, disons, assurément dans les deux familles politiques. Ah.
Il est transparent, transpartisan.
En tout cas, au nom des intérêts du Québec, il l'a démontré en certaines circonstances. Même si, parfois, il a joué certaines astuces, certaines
en terminant,
acrobaties,
Patrick,
oui, certaines acrobaties que la vie politique exige. Comme, par exemple, dire du bien de la loi 99 que proposait et qu'a fait adopter Joseph Facal, défendre son contenu, mais voter contre, ou en tout cas, dire qu'il faut pas adopter ça parce qu'une loi, c'est pas une bonne idée. Et donc, dans le jeu des oui et des non, il s'est aussi prêté par moments à ce jeu partisan qui implique parfois de s'opposer pour le plaisir de la chose, si je peux dire.
Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On se reparle la semaine prochaine.